Et bienvenue dans la deuxième partie d'Onde Noire. Jacques, donc, tu nous emmènes en Écosse pour un joli coup de cœur.
Oui, un coup de cœur d'un roman donc, de Peter May qui s'appelle L'Homme de Lewis, qui est paru aux éditions du Rouergue et qui est traduit de l'écossais par Jean-René Dastug. Donc, ce roman met en scène Finn MacLeod, qui est un ex-flic et il revient dans son île natale de Lewis, voudrait-il croire au départ, pour se ressourcer et se retrouver après le décès de son fils et le divorce houleux qui en a suivi. Il a quitté son métier de flic et il est en fait donc libre comme l'air. Et de l'air, ben, il y en a aux îles Hébrides. Hein.
Mais voilà, à peine. Tu as oublié de préciser que l'île de Lewis, c'était dans les Hébrides.
Eh bien voilà, tu viens de le faire donc. Et à peine descendu du ferry, donc, qui l'amène sur l'île de Lewis, qui est dans les Hébrides, il va être mêlé à une histoire de meurtre. Un meurtre assez étrange. En fait, on a retrouvé un cadavre enterré dans de la tourbe. Et enterré depuis fort longtemps. Mais dans un très bon état de conservation, et oui, bien sûr.
C'est-à-dire que...
La conversation, il ne peut plus en avoir vu l'état.
Voilà, exactement.
Cependant, il est quand même bien conservé. Et il deviendra donc l'homme de Lewis, qui donne le titre au roman, à la manière de l'homme de Toulon, qu'on avait été aussi retrouvé, conservé dans la tourbière, mais danoise. Le début du roman, des prélèvements ADN vont tout de suite diriger les soupçons vers Thormod MacDonald, on est en Écosse, hein, un vieil homme atteint d'Alzheimer. Il fut autrefois assez proche de l'ex-flic, et donc Finn, eh ben, il va se mettre à enquêter, sans véritable accréditation officielle, mais cependant avec l'aide du constable local. Constable, n'est-ce pas ? Alors l'astuce, enfin, qui est vraiment bien dans sa narration, c'est qu'il va utiliser le récit du vieux grand-père, Alzheimer, donc, mais il a quand même ses souvenirs d'enfance qui reviennent dans ces quelques moments de lucidité, et qui permet donc de raconter son enfance, et qui nous permet de découvrir la vérité, par un bout. Et de l'autre côté, il y a l'ex-flic qui va démêler les fils tenus d'une enquête que d'aucuns qualifieraient à le temps. On apprendra beaucoup dans ce roman sur ces jeunes orphelins qu'on appelait les Homers, que l'Église catholique cédait au début du siècle, le 20e, à des familles des îles pour en faire ni plus ni moins que des esclaves sous couvert d'adoption plus ou moins légale.
Décidément, on avait déjà Ken Bruen qui dénonçait l'Église catholique en Irlande. En Écosse, c'est pas mieux.
Voilà. Alors, on découvrira aussi dans ce roman que si les catholiques pratiquants ne sont guère de joyeux lurons, c'est carrément la famille Marx, Groucho Harpo Chico, par rapport aux presbytériens formés, réformés, qui peuplent l'île des Hébrides. Parce que là, ils sont carrément sévères. Peter May réussit...
Sévère mais juste.
Sévère mais juste, bien sûr. Peter May réussit un très très beau roman, très sombre, un récit très documenté, mais il maintient quand même vraiment un rythme enlevé. Il a un style sans vraiment de fioriture, mais c'est remarquablement écrit. Le climat tient une part non négligeable dans le roman. J'en parlais au début avec le vent. Alors il y a la pluie, les paysages de tourbière, tout contribue en fait à rendre la vie des gens de l'île assez rude. L'île en elle-même, avec l'isolement qu'elle implique, c'est une île, devient partie prenante de la narration. Donc en fait, il nous livre une espèce de leçon d'histoire, mais sans nous donner de leçon de morale. Il parvient aussi à relater deux belles histoires d'amour, sans qu'en fait il n'y ait le moindre pathos ou la moindre mièvrerie, c'est plutôt bien réussi. Ces personnages sont très attachants, et si certaines... discussion, se règle à coups de poing, rien de tel que un ou plusieurs verres de pur malt, surtout du vieux, pour entamer l'inévitable réconciliation après la bagarre.
Alors, est-ce qu'il explique si au temps des presbytériens, où les presbytériens et où l'Église catholique faisait la loi, il y avait aussi le pur malt ? Parce que dans un autre roman, mais en Irlande, de Colin Batman, apparemment, ça déliait quand même un petit peu les pruderies.
Ah, tout à fait, de toute manière, ils avaient déjà, pas forcément des pure malt, mais ils avaient déjà des distilleries locales qui fonctionnaient bien malgré les presbytériens. C'est donc la deuxième aventure en fait, de Finn MacLeod, il en est prévu une autre. Pour ceux qui n'auraient pas lu la précédente qui s'appelle « L'île des chasseurs d'oiseaux », et qui voudrait donc découvrir l'Écosse, les Hébrides, l'île de Lewis, et en même temps Finn MacLeod, cet enquêteur assez sympathique, bien que un peu, comme souvent les enquêteurs des romans noirs, pas forcément dans son meilleur état moral. Eh bien, je vous propose donc aussi de découvrir L'île des chasseurs d'oiseaux, qui vient d'être tout juste réédité, ou en fait en début novembre, qui sera réédité en début novembre aux éditions Babel.
Voilà pourquoi on n'en a pas parlé dans le début de
Tout à
l'émission,
l'heure,
dans Lire
voilà, parce
Cacher.
que, ben non, parce qu'il n'est pas encore tout à fait dans les librairies.
Voilà, donc à vos librairies en novembre pour L'île des chasseurs d'oiseaux, et donc il y a beaucoup d'oiseaux aux îles Hébrides.
Et ben voilà, ceci dit, on peut tout à fait lire L'homme de Lewis qui vient de paraître sans bien évidemment avoir lu le précédent. Les petites indications concernant la vie passée de Finn MacLeod sont données par l'auteur, bien évidemment, au fur et à mesure des besoins de
Voilà,
l'enquête.
tu vas rappeler peut-être avant qu'on écoute un petit peu de musique les éditions. Et le traducteur, s'il te plaît.
Donc, Peter May, donc, le roman s'appelle L'homme de Lewis, je crois que j'ai déjà dit assez, est paru aux éditions du Rouergue, il vaut 20 euros, il est traduit de l'écossais par Jean-René Dastugue. Une petite note aussi, ce roman n'est pour l'instant pas encore paru ni en Écosse ni en Angleterre.
Peut-être une pression de
Non,
la
pas du tout, en
religion.
fait, non, parce que il a d'abord trouvé un éditeur en France, cet homme qui vit en France, Peter May, donc c'est peut-être pour ça le premier, donc L'île des chasseurs. Les chasseurs d'oiseaux vient d'être traduit en anglais, je pense, au début de cette année.
Attends, il vient d'être traduit en anglais, il vient d'être
Non, il y a
édité.
des traités en anglais, oui, bien sûr. Non, il est
Ah,
écrit en
je
écossais. Non, non,
préfère
ils ne traduisent pas
l'écrit.
de l'écossais à l'anglais, bien
Voilà, quand
évidemment. Non,
même,
il faut
parce
quand même pas
que
exagérer.
bon, même avec deux singles malt, ils doivent
Non.
s'en sortir quand même, hein. Et puis les Anglais connaissent aussi le pur malt, il n'y a pas de
Tout à
problème.
fait.
Alors, comme musique, que nous as-tu choisi?
Eh ben, la plus célèbre, disons, ou la plus connue des musiques écossaises, mais Scotland's Brave, presque l'hymne écossais, mais par un groupe allemand qui s'appelle Grave Digger, et disons dans une version un peu survitaminée.
C'est vraiment du pur jus écossais. Une petite nouvelle de la planète polaire et une très bonne nouvelle, en tout cas pour les fans de René Frény et évidemment pour René Frény lui-même. Il vient d'avoir le premier prix des lecteurs de Montsartout pour son dernier livre qui est paru au début de l'année. Ce livre s'appelle La fiancée des corbeaux et c'est publié chez Gallimard. Je précise Gallimard, la collection blanche, pas la collection polar. Je ne sais pas si ça, le fait de ne pas être publié. Mais René Frény, en fait, il n'est pas tellement dans les collections polar. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a vraiment l'impression qu'enfin, ce très grand romancier, pas trop mal connu jusqu'à présent, a enfin une reconnaissance. Donc dans ce roman, La fiancée des corbeaux, une sorte de journal intime, il s'est vraiment si bien trouvé les mots pour parler des fragilités de l'être humain, des failles, des gens simples, des borderline, des fous et des sages. On ne sait pas trop s'il n'y est pas un peu dans tout ça, mais voilà, c'est aussi, il raconte ses rencontres. Si vous ne l'avez pas encore lu, il a fait pas mal de bruit lorsqu'il est paru, pardon. Vraiment, je vous conseille d'aller le chercher chez votre libraire favori. Je vous rappelle le titre, c'est « La fiancée des corbeaux ». Et puis, quand vous
serez... parlais de Montsartou, donc c'est à l'occasion du festival du livre de Montsartou.
Voilà, oui.
Bon, la plupart des auditeurs d'Agora connaissent peut-être, vu qu'on en parle aussi sur Agora, mais ceux qui nous écoutent ailleurs grâce à Internet ne le savent peut-être pas forcément.
Voilà, le festival de Montsartou qui a eu lieu le deuxième week-end d'octobre. Et c'était, quand je dis que c'est le premier prix, c'est la première fois que ce prix a été décerné. Une façon originale d'ailleurs de le décerner, puisque c'est un comité de lecteurs de la médiathèque qui avait choisi un certain nombre de livres, je ne me souviens plus, 8 ou 10. Et ensuite, c'était les lecteurs qui votaient par Internet. Et René Frény a apparemment gagné haut la main. Donc, comme je le disais, je pense que si vous lisez ce livre, vous allez être conquis par la narration et la plume de René Frény. Donc, je vous conseille quelques autres romans. Le voleur d'innocence, Elle danse dans le noir, et puis mon préféré, On ne s'endort jamais seul.
Et quand tu dis la plume, c'est vraiment le cas, parce que René Frény, contrairement à beaucoup d'auteurs maintenant, écrit toujours à la main et à la plume sur un...
Ouais, je pense que c'est pas une plume d'oiseau, tu parlais
Probablement pas, non. En tous les cas, pas arrachée aux oiseaux de Peter May, bien entendu.
Non. Alors, je vais maintenant vous parler d'une curiosité. C'est une pièce, une pièce de théâtre. Oui, en fait, c'est une pièce radiophonique. Et c'est noir, très noir. C'est édité par la Tango Edition, ou la Tango Edition, je sais pas trop. Franchement, au départ, ce n'était pas le genre de livre vers lequel j'aurais été attirée, même s'il est signé de Christian Roux, pour moi, un des grands du polar français. Et lui aussi, comme je disais, René Frény, encore trop méconnu à mon avis. Donc c'est une pièce radiophonique qui a été écrite je ne sais plus quand pour France Culture. Et vous êtes peut-être en droit, comme je me le suis demandé, si l'édition papier est bien utile. Ben oui, parce que c'est une très belle réussite. Je ne vous ai pas encore dit le titre, ça s'appelle... Le 7 de carreau.
La carte.
Voilà. C'est aussi le nom d'un détective bien particulier, dont le prénom est Charles. Et Charles, il a une fille, Camille, qui est une sorte de garde-malade auprès de Maryse, qui est une femme paralysée. Il se passe de drôles de choses dans cette maison, et lorsque Camille enregistre une conversation où il est question d'abréger la vie de Maryse en lui faisant porter le chapeau, le papa détective va évidemment voler à son secours. Et on n'est pas au bout de nos surprises. C'est donc un court texte de Christian Roux, mais c'est un texte très riche. Et ce qui est vraiment très important dans cette pièce radiophonique, c'est qu'il va jouer justement avec le sonore. Tous les sons que nous entendons sont en fait comme des faux-semblants. Tous les mots que nous lisons sont à double sens. Les dialogues sont ciselés, le style épuré, on va vraiment à l'essentiel. Comme à son habitude, on retrouve ça chez les romans de Christian Roux.
Dans les romans.
Il enchevêtre plusieurs niveaux de narration. Et ça va aussi bien dans les romans comme Cas de Gosse que dans ce genre littéraire qui est vraiment très particulier. C'est un petit bijou à mettre en gros dans son cabinet de curiosité. Et ce, pour la modique somme de 4,80€. Alors, dans cette collection, à la Tango Édition, est aussi paru deux autres titres. Je ne les ai pas lus, mais comme ce sont deux pointures du roman noir français, on va quand même les citer. Le premier, c'est une pièce radiophonique de Marin Ledin, qui s'appelle Fractal, et Caril Ferré a écrit Nouveau Monde Incorporated, en fait Inc. I-N-C. Voilà, à la Tango Édition, je rappelle le 7 de carreau de Christian Roux, un petit bijou. Jacques, un de nos habitués et un de nos habitués automnales.
Un de nos habitués automnales et vraiment un qui nous régale à chacun de ses romans, Jean Contrucci. Le roman s'appelle La somnambule de la villa au loup et il est publié chez Jean-Claude Lattès pour 17€. C'est le 10e tome des Nouveaux Mystères de Marseille. On va donc retrouver Raoul Signoret, qui est toujours petit reporter au Petit Provençal, et son oncle Eugène Baruteau, le qui est désormais le commissaire central de la police de Marseille. Il vient d'être nommé ainsi par le Tigre, qui vous savez bien entendu, et Georges Clemenceau, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque. Le mystère, cette fois-ci, est la mort, apparemment un suicide, d'un couple illégitime dans une villa du quartier de la Panouse. Le quartier de la Panouse, c'est dans le sud de Marseille. À l'époque, c'était encore à la périphérie de la ville.
C'était un des villages encore.
Voilà, ce roman se passe en 1908. Alors, il y a un côté très jeune Werther dans ce prétendu suicide, le jeune amant qui refuse de perdre son amour et de la laisser partir. Mais évidemment, ça abusera absolument pas notre jeune Raoul Signoret.
Jeune, il devient moins jeune. Il est moins en moins jeune.
Oui, bien sûr. Mais bon, quand même, il reste jeune dans le cœur. Et il va vite trouver des indices contredisant la thèse officielle, celle du mari, donc de la femme qui s'est prétendument suicidée, qui est un réputé professeur de médecine. Évidemment, il n'aime pas beaucoup que sa réputation soit
entachée.
Entachée, exactement. Et Jean Contrucci, fidèle à son habitude, va nous décrire les petites gens de sa ville, du cocher de la voiture hippomobile au retraité des vieux quartiers, de l'aide-soignante ou des petits travailleurs de l'hôpital face aux grands professeurs et aux médecins qui imposent leur autorité. Et on retrouve aussi, bien sûr, toute la famille.
Cécile, sa femme
avec les enfants, la femme de Eugène Baruteau, et puis aussi tous les repas de famille qui font les bons moments pour eux et puis pour nous quand on les lit.
Oui, on salive un peu.
Et puis il y a aussi dans ce roman, en fait, la somnambule, elle est, qui fait le titre, elle n'est pas somnambule en fait, elle était plus ou moins hypnotisée, du moins c'est ce qu'on suppose à un moment du roman. Et donc il va nous parler beaucoup de ces hypnotiseurs et de ces méthodes comme ça qui, au début de ce siècle, toujours le précédent, étaient en vogue à Marseille et en France.
Oui, mais ça a commencé en Angleterre avec toute la...
Voilà. Et il y a une nouveauté intéressante dans ce roman, c'est que toute la petite famille, Cécile, Eugène et Raoul, et un professeur de l'université, vont aller à Paris. Tous, et en train. Alors, il faut dire qu'en train, à l'époque, ça mettait 14 heures, ils avaient le temps de bavarder et d'apprendre des choses sur l'hypnotisme et de discuter de l'affaire.
Ceci dit, il y a certains TGV qui mettent aussi le temps, Marseille et Paris. Mais c'est plus rare quand même.
Voilà, à l'époque, au moins, c'était 14 heures et on savait qu'on en avait pour son temps.
Voilà, et bien, donc, je précise qu'on peut lire les 10, à commencer par l'énigme de la Blancarde. Les 9 autres sont, si je ne m'abuse, réédités.
Les 8 premiers sont réédités dans la collection Le Livre de Poche.
Mais on peut lire celui-là.
Sans connaître les autres, sans aucun problème. De toute manière, à mon sens, si vous commencez à en lire un, vous ne pourrez que avoir envie de lire les autres.
Voilà, c'est du Jean Contrucci addict. Et bien voilà, on arrive au terme de notre émission. J'en vais vous saluer. Au revoir Jacques.
Au revoir Corinne. Et à
la prochaine
bientôt.
Fois.
Au revoir.